Denis Diderot, La religieuse. J'éprouvais cependant, à l'approche de ma profession, une mélancolie si profonde qu'elle mit ma bonne supérieure à de terribles épreuves. Son talent l'abandonna. Elle me l'avoua elle-même. « Je ne sais, me dit-elle, ce qui se passe en moi. Il me semble, quand vous venez, que Dieu se retire et que son esprit se taise. C'est inutilement que je m'excite, que je cherche des idées, que je veux exalter mon âme. Je me trouve une femme ordinaire et bornée, je crains de parler. Ah, chère mère, lui dis-je, quel pressentiment! Si c'était Dieu qui vous rendit muette! » Un jour que je me sentais plus incertaine et plus abattue que jamais, j'allai dans sa cellule. Ma présence l'interdit d'abord. Elle lut apparemment dans mes yeux, dans toute ma personne, que le sentiment profond que je portais en moi était au-dessus de ses forces. Et elle ne voulait pas lutter sans la certitude d'être victorieuse. Cependant, elle m'entreprit, elle s'échauffa peu à peu. À mesure que ma douleur tombait, son enthousiasme croissait. Elle se jeta subitement à genoux, je l'imitais. Je crus que j'allais partager son transport, je le souhaitais. Elle prononça quelques mots, puis tout à coup elle se tut. J'attendis inutilement. Elle ne parla plus. Elle se releva, elle fondait en larmes. Elle me prit par la main et me serrant entre ses bras, « Ah, cher enfant, me dit-elle, quel effet cruel vous avez opéré sur moi. Voilà qui est fait, l'esprit s'est retiré, je le sens. Allez, que Dieu vous parle lui-même, puisqu'il ne lui plaît pas de se faire entendre par ma bouche. » En effet, je ne sais ce qui s'était passé en elle, si je lui avais inspiré une méfiance de ses forces qui ne s'est plus dissipée, si je l'avais rendue timide, ou si j'avais vraiment rompu son commerce avec le ciel. Mais le talent de consoler ne lui revint plus. La veille de ma profession, j'allais la voir. Elle était d'une mélancolie égale à la mienne. Je me mis à pleurer, elle aussi. Je me jetai à ses pieds, elle me bénit, me releva, m'embrassa et me renvoya en me disant « Je suis lasse de vivre, je souhaite de mourir. » J'ai demandé à Dieu de ne point voir ce jour, mais ce n'est pas sa volonté. Allez, je parlerai à votre mère. Je passerai la nuit en prière. Priez aussi, mais couchez-vous, je vous l'ordonne. Permettez, lui répondis-je, que je m'unisse à vous. Je vous le permets, depuis 9 heures jusqu'à 11, pas davantage. À 9h30, je commencerai à prier, et vous aussi. Mais à 11 heures, vous me laisserez prier seul et vous vous reposerez. Allez, cher enfant, je veillerai devant Dieu le reste de la nuit. » Elle voulut prier, mais elle ne le put pas. Je dormais. Et cependant, cette sainte femme allait dans les corridors, frappant à chaque porte, éveillant les religieuses et les faisant descendre sans bruit dans l'église. Toutes s'y rendirent. Et lorsqu'elles y furent, elle les invita à s'adresser au ciel pour moi. Cette prière se fit d'abord en silence. Ensuite, elle éteignit les lumières. Toutes récitèrent ensemble le Miserere, excepté la supérieure, qui, prosternée au pied des autels, se macérait cruellement en disant « Oh Dieu, si c'est par quelque faute que j'ai commise que vous vous êtes retiré de moi, accordez-moi le pardon. » Je ne demande pas que vous me rendiez le don que vous m'avez ôté, mais que vous vous adressiez vous-même à cette innocente qui dort, tandis que je vous invoque ici pour elle. Mon Dieu, parlez-lui, parlez à ses parents, et pardonnez-moi. » Le lendemain, elle entra de bonne heure dans ma cellule. Je ne l'entendis point, je n'étais pas encore réveillée. Elle s'assit à côté de mon lit. Elle avait posé légèrement une de ses mains sur mon front. Elle me regardait. L'inquiétude, le trouble et la douleur se succédaient sur son visage, et c'est ainsi qu'elle m'apparut lorsque j'ouvris les yeux. Elle ne me parla point de ce qui s'était passé pendant la nuit. Elle me demanda seulement si je m'étais couchée de bonne heure, je lui répondis, à l'heure que vous m'avez ordonnée. Si j'avais reposé, profondément, je m'y attendais. Comment je me trouvais ? Fort bien, et vous, chère mère ? Hélas, me dit-elle, je n'ai vu aucune personne entrer en religion sans inquiétude, mais je n'ai éprouvé sur aucune autant de troubles que sur vous. Je voudrais bien que vous fussiez heureuse. Si vous m'aimez toujours, je le serai. Ah, s'il ne tenait qu'à cela ! N'avez-vous pensé à rien pendant la nuit ? Non. Vous n'avez fait aucun rêve ? Aucun. Qu'est-ce qui se passe à présent dans votre âme ? Je suis stupide, j'obéis à mon sort, sans répugnance et sans goût. Je sens que la nécessité m'entraîne et je me laisse aller. Ah, ma chère mère, je ne sens rien de cette douce joie, de ce tressaillement, de cette mélancolie, de cette douce inquiétude que j'ai quelquefois remarquée dans celle qui se trouvait au moment où je suis. Je suis imbécile, je ne saurais même pleurer. On le veut, il le faut, est la seule idée qui me vienne. Mais vous ne me dites rien. Je ne suis pas venue pour vous entretenir, mais pour vous voir et pour vous écouter. J'attends votre mère. Tâchez de ne pas m'émouvoir. Laissez les sentiments s'accumuler dans mon âme. Quand elle en sera pleine, je vous quitterai. Il faut que je me taise. Je me connais, je n'ai qu'un jet, mais il est violent, et ce n'est pas avec vous qu'il doit s'exhaler. Reposez-vous encore un moment, que je vous vois. Dites-moi seulement quelques mots, et laissez-moi prendre ici ce que je viens y chercher. J'irai, et Dieu fera le reste. Je me tus. Je me penchai sur mon oreiller. Je lui tendis une de mes mains qu'elle prit. Elle paraissait méditer, et méditer profondément. Elle avait les yeux fermés avec effort. Quelquefois, elle les ouvrait, les portait en haut et les ramenait sur moi. Elle s'agitait. Son âme se remplissait de tumulte, se composait et s'agitait ensuite. En vérité, cette femme était née pour être prophétesse. Elle en avait le visage et le caractère. Elle avait été belle, mais l'âge, en affaissant ses traits et y pratiquant de grands plis, avait encore ajouté de la dignité à sa physionomie. Elle avait les yeux petits, mais ils semblaient ou regarder en elle-même ou traverser les objets voisins, et démêler au-delà, à une grande distance, toujours dans le passé ou dans l'avenir. Elle me serrait quelquefois la main avec force. Elle me demanda brusquement quelle heure il était. « Il est bientôt 6 heures. »« Adieu, je m'en vais. On va venir vous habiller. Je n'y veux pas être, cela me distrairait. Je n'ai plus qu'un souci, c'est de garder de la modération dans les premiers moments. » Elle était à peine sortie que la mère des novices et mes compagnes entrèrent. On m'ôta les habits de religion et l'on me revêtit des habits du monde. C'est un usage que vous connaissez. Je n'entendis rien de ce qu'on disait autour de moi. J'étais presque réduite à l'état d'automate. Je ne m'aperçus de rien. J'avais seulement, par intervalle, comme de petits mouvements convulsifs. On me disait ce qu'il fallait faire. On était souvent obligé de me le répéter, car je n'entendais pas la première fois. Et je le faisais. Ce n'était pas que je pensasse à autre chose, c'est que j'étais absorbée. J'avais la tête lasse, comme quand on s'est excédé de réflexion. Cependant, la supérieure s'entretenait avec ma mère. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé dans cette entrevue, qui dura fort longtemps. On m'a dit seulement que quand elles se séparèrent, ma mère était si troublée qu'elle ne pouvait retrouver la porte par laquelle elle était entrée, et que la supérieure était sortie les mains fermées et appuyée contre le front. Cependant, les cloches sonnèrent. Je descendis. L'assemblée était peu nombreuse. Je fus prêchée bien ou mal, je n'entendis rien. On disposa de moi pendant toute cette matinée qui a été nulle dans ma vie, car je n'en ai jamais connu la durée. Je ne sais ni ce que j'ai fait, ni ce que j'ai dit. On m'a sans doute interrogée. J'ai sans doute répondu. J'ai prononcé des vœux, mais je n'en ai nulle mémoire. et je me suis trouvée religieuse aussi innocemment que je fus faite chrétienne. Je n'ai pas plus compris à toute la cérémonie de ma profession qu'à celle de mon baptême, avec cette différence que l'une confère la grâce et que l'autre la suppose. Eh bien, monsieur, quoique je n'ai pas réclamé à Longchamp, comme j'avais fait à Sainte-Marie, me croyez-vous plus engagé? J'en appelle à votre jugement, j'en appelle au jugement de Dieu. J'étais dans un état d'abattement si profond que, quelques jours après, lorsqu'on m'annonça que j'étais de cœur, je ne sus ce qu'on voulait dire. Je demandai s'il était bien vrai que j'eusse fait profession. Je voulus voir la signature de mes vœux. Il fallut joindre à ces épreuves le témoignage de toute la communauté, celui de quelques étrangers qu'on avait appelés à la cérémonie. M'adressant plusieurs fois à la supérieure, je lui disais « Cela est donc bien vrai ?» Et je m'attendais toujours qu'elle m'allait répondre « Non, mon enfant, on vous trompe !» Son assurance réitérée ne me convainquait pas, ne pouvant concevoir que dans l'intervalle d'un jour entier, aussi tumultueux, aussi varié, si plein de circonstances singulières et frappantes, je ne m'en rappelasse aucune, pas même le visage ni de celle qui m'avait servi, ni de celui du prêtre qui m'avait prêché, ni de celui qui avait reçu mes vœux. Le changement de l'habit religieux en habit du monde est la seule chose dont je me ressouvienne. Depuis cet instant, j'ai été ce qu'on appelle physiquement aliéné. Il a fallu des mois entiers pour me tirer de cet état. Et c'est à la longueur de cette espèce de convalescence que j'attribue l'oubli profond de ce qui s'est passé. C'est comme ceux qui ont souffert une longue maladie, qui ont parlé avec jugement, qui ont reçu les sacrements et qui, rendus à la santé, n'en ont aucune mémoire. J'en ai vu plusieurs exemples dans la maison et je me suis dit à moi-même « Voilà apparemment ce qui m'est arrivé le jour que j'ai fait profession ». Mais s'il reste à savoir si ces actions sont de l'homme, et s'il y est, quoi qu'il paraisse y être. Je fis, dans la même année, trois pertes intéressantes. Celle de mon père, ou plutôt de celui qui passait pour tel. Il était âgé, il avait beaucoup travaillé, il s'éteignit. Celle de ma supérieure et celle de ma mère. Cette digne religieuse sentit de loin son heure approcher. Elle se condamna au silence. Elle fit porter sa bière dans sa chambre. Elle avait perdu le sommeil et elle passait les jours et les nuits à méditer et à écrire. Elle a laissé 15 méditations qui me semblent à moi de la plus grande beauté. J'en ai une copie. Si quelque jour vous étiez curieux de voir les idées que cet instant suggère, je vous les communiquerai. Elles sont intitulées « Les derniers instants de la sœur de Moni ». À l'approche de sa mort, elle se fit habiller. Elle était étendue sur son lit. On lui administra les derniers sacrements. Elle tenait un Christ entre ses bras. C'était la nuit. La lueur des flambeaux éclairait cette scène lugubre. Nous l'entourions, nous fondions en larmes. Sa cellule retentissait de cris lorsque tout à coup ses yeux brillèrent. Elle se leva brusquement, elle paria. Sa voix était presque aussi forte que dans l'état de santé. Le don qu'elle avait perdu lui revint. Elle nous reprocha des larmes qui semblaient lui envier un bonheur éternel. « Mes enfants, votre douleur vous en impose. C'est là, disait-elle en montrant le ciel, que je vous servirai. Mes yeux s'abaisseront sans cesse sur cette maison. J'intercéderai pour vous et je serai exaucée. Approchez toutes, que je vous embrasse. Venez recevoir ma bénédiction et mes adieux. » C'est en prononçant ces dernières paroles que trépassa cette femme rare, qui a laissé après elle des regrets qui n'en finiront point. Ma mère mourut au retour d'un petit voyage qu'elle fit sur la fin de l'automne chez une de ses filles. Elle eut du chagrin, sa santé avait été fort affaiblie. Je n'ai jamais su ni le nom de mon père, ni l'histoire de ma naissance. Celui qui avait été son directeur et le mien me remit de sa part un petit paquet. C'était 50 louis avec un billet, enveloppés et cousus dans un morceau de linge. Il y avait dans ce billet: « Mon enfant, c'est peu de choses. Mais ma conscience ne me permet pas de disposer d'une plus grande somme. C'est le reste de ce que j'ai pu économiser sur les petits présents de M. Simonin. Vivez saintement, c'est le mieux, même pour votre bonheur en ce monde. Priez pour moi. Votre naissance est la seule faute importante que j'ai commise. Aidez-moi à l'expier. Et que Dieu me pardonne de vous avoir mis au monde, en considération des bonnes œuvres que vous ferez. Surtout, ne troublez point la famille. Et quoique le choix de l'état que vous avez embrassé n'ait pas été aussi volontaire que je l'aurais désiré, craignez d'en changer. Que n'ai-je été renfermée dans un couvent pendant toute ma vie? Je ne serai pas si troublée de la pensée qu'il faut dans un moment subir le redoutable jugement. Songez, mon enfant, que le sort de votre mère dans l'autre monde dépend beaucoup de la conduite que vous tiendrez dans celui-ci. Dieu qui voit tout m'appliquera dans sa justice tout le bien et tout le mal que vous ferez. Adieu, Suzanne. Ne demandez rien à vos sœurs. Elles ne sont pas en état de vous secourir. N'espérez rien de votre père. Il m'a précédé. Il a vu le grand jour. Il m'attend. Ma présence sera moins terrible pour lui que la sienne pour moi. Adieu encore une fois. Ah, malheureuse mère! Ah, malheureux enfant! Vos sœurs sont arrivées. Je ne suis pas contente d'elles. Elles prennent, elles emportent, elles ont, sous les yeux d'une mère qui se meurt, des querelles d'intérêts qui m'affligent. Quand elles s'approchent de mon lit, je me retourne de l'autre côté. Que verrai-je en elles? Deux créatures en qui l'indigence a éteint le sentiment de la nature. Elles soupirent après le peu que je laisse. Elles font aux médecins et à la garde des questions indécentes qui marquent avec quelle impatience elles attendent le moment où je m'en irai et qui les saisira de tout ce qui m'environne. Elles ont soupçonné, je ne sais comment, que je pouvais avoir quelque argent caché entre mes matelas. Il n'y a rien qu'elle n'ait mis en œuvre pour me faire lever, et elles y ont réussi. Mais heureusement, mon dépositaire était venu la veille, et je lui avais remis ce petit paquet avec cette lettre qu'il a écrite sous Nia dictée. Brûlez la lettre. Et quand vous saurez que je ne suis plus, ce qui sera bientôt, vous ferez dire une messe pour moi, et vous y renouvellerez vos vœux. Car je désire toujours que vous demeuriez en religion. L'idée de vous imaginer dans le monde sans secours, sans appui, jeune, achèverait de troubler mes derniers instants. Mon père mourut le 5 janvier, ma supérieure sur la fin du même mois, et ma mère la seconde fête de Noël. Ce fut la sœur Sainte Christine qui succéda à la mère de Moni. Ah, monsieur, quelle différence entre l'une et l'autre! Je vous ai dit quelle femme c'était la première. Celle-ci avait le caractère petit, une tête étroite et brouillée de superstition. Elle donnait dans les opinions nouvelles. Elle conférait avec des suspiciens, des jésuites. Elle prit en aversion toutes les favorites de celles qui l'avaient précédée. En un moment, la maison fut pleine de troubles, de haine, de médisances, d'accusations, de calomnies et de persécutions. Il fallut s'expliquer sur des questions de théologie où nous n'entendions rien, souscrire à des formules, se plier à des pratiques singulières. La mère de Moni n'approuvait point ces exercices de pénitence qui se font sur le corps. Elle ne s'était macérée que deux fois dans sa vie, une fois la veille de ma profession, une autre fois dans une pareille circonstance. Elle disait de ses pénitences qu'elle ne corrigeait d'aucun défaut et qu'elle ne servait qu'à donner de l'orgueil. Elle voulait que ses religieuses se portassent bien et qu'elles eussent le corps sain et l'esprit serein. La première chose, lorsqu'elle entra en charge, ce fut de se faire apporter tous les cilices avec les disciplines et de défendre d'altérer les aliments avec de la cendre, de coucher sur la dure et de se pourvoir d'aucun de ses instruments. La seconde, au contraire, renvoya à chaque religieuse son cilice et sa discipline, et fit retirer l'Ancien et le Nouveau Testament. Les favorites du règne antérieur ne sont jamais les favorites du règne qui suit. Je fus indifférente. Pour ne rien dire de pis, à la supérieure actuelle, par la raison que sa précédente m'avait chérie. Mais je ne tardais pas à empirer mon sort par des actions que vous appellerez ou imprudence ou fermeté, selon le coup d'œil sous lequel vous les considérerez. La première, ce fut de m'abandonner à toute la douleur que je ressentais de la perte de notre première supérieure, d'en faire l'éloge en toutes circonstances, d'occasionner entre elle et celle qui nous gouvernait des comparaisons qui n'étaient pas favorables à celle-ci, de peindre l'état de la maison sous les années passées, de rappeler au souvenir la paix dont nous jouissions, l'indulgence qu'on avait pour nous, la nourriture, tant spirituelle que temporelle, qu'on nous administrait alors, et d'exalter les mœurs, les sentiments, le caractère de la sœur de Moni. La seconde, ce fut de jeter au feu le cilice et de me défaire de ma discipline, de prêcher mes amis là-dessus et d'en engager quelques-unes à suivre mon exemple. La troisième, de me pourvoir d'un Ancien et d'un Nouveau Testament. La quatrième, de rejeter tout parti, de m'en tenir au titre de chrétienne sans accepter le nom de janséniste ou de moliniste. La cinquième, de me renfermer rigoureusement dans la règle de la maison, sans vouloir rien faire ni en delà, ni en deçà. Conséquemment, de ne me prêter à aucune action surérogatoire, celle d'obligation ne me paraissant déjà que trop dure. De ne monter à l'orgue que les jours de fête, de ne chanter que quand je serai de cœur, de ne plus souffrir qu'on abusât de ma complaisance et de mes talents, et qu'on me mit à tout et à tous les jours. Je lus les constitutions, je les relus, je les savais par cœur. Si l'on m'ordonnait quelque chose, ou qui n'y fût pas exprimé clairement, ou qui n'y fût pas, ou qui m'y parut contraire, je m'y refusais fermement. Je prenais le livre et je disais « Voilà les engagements que j'ai pris, et je n'en ai point pris d'autres ». Mes discours en entraînèrent quelques-unes. L'autorité des maîtresses se trouva très bornée. Elles ne pouvaient plus disposer de nous comme de leurs esclaves. Il ne se passait presque aucun jour sans quelque scène d'éclat. Dans les cas incertains, mes compagnes me consultaient, et j'étais toujours pour la règle contre le despotisme. J'eus bientôt l'air, et peut-être un peu, le jeu d'une factieuse. Les grands vicaires de M. l'archevêque étaient sans cesse appelés. Je comparaissais, je me défendais, je défendais mes compagnes. Et il n'est pas arrivé une seule fois qu'on m'ait condamné, tant j'avais d'attention à mettre la raison de mon côté. Il était impossible de m'attaquer du côté de mes devoirs, je les remplissais avec scrupule. Quant aux petites grâces qu'une supérieure est toujours libre d'accorder ou de refuser, je n'en demandais point. Je ne paraissais point au parloir, et des visites, ne connaissant personne, je n'en recevais point. Mais j'avais brûlé mon cilice et jeté là ma discipline. J'avais conseillé la même chose à d'autres. Je ne voulais entendre parler jansénisme ni molinisme, ni en bien ni en mal. Quand on me demandait si j'étais soumise à la Constitution, je répondais que je l'étais à l'Église. Si j'acceptais la bulle, que j'acceptais l'Évangile. On visita ma cellule. On y découvrit l'Ancien et le Nouveau Testament. Je m'étais échappée en discours indiscrets sur l'intimité suspecte de quelques-unes des favorites. La supérieure avait des tête-à-tête longs et fréquents avec un jeune ecclésiastique, et j'en avais démêlé la raison et le prétexte. Je n'omis rien de ce qui pouvait me faire craindre, haïr, me perdre. Et j'en vins à bout. On ne se plaignit plus de moi au supérieur, mais on s'occupa à me rendre la vie dure. On défendit aux autres religieuses de m'approcher, et bientôt je me trouvai seule. J'avais des amis en petit nombre. On se douta qu'elles chercheraient à se dédommager, à la dérober de la contrainte qu'on leur imposait, et que, ne pouvant s'entretenir de jour avec moi, elles me visiteraient la nuit ou à des heures défendues. On nous épia. On me surprit, tantôt avec l'une, tantôt avec une autre. L'on fit de cette imprudence tout ce qu'on voulut, et j'en fus châtié de la manière la plus inhumaine. On me condamna des semaines entières à passer l'office à genoux, séparé du reste, au milieu du cœur, à vivre de pain et d'eau, à demeurer enfermé dans ma cellule, à satisfaire aux fonctions les plus viles de la maison. Celles qu'on appelait mes complices n'étaient guère mieux traitées. Quand on ne pouvait me trouver en faute, on m'en supposait. On me donnait à la fois des ordres incompatibles et l'on me punissait d'y avoir manqué. On avançait les heures des offices, des repas, on dérangeait à mon insu toute la conduite claustrale et avec l'attention la plus grande, je me trouvais coupable tous les jours. Et j'étais tous les jours puni. J'ai du courage, mais il n'en est point qui tienne contre l'abandon, la solitude et la persécution. Les choses en vinrent au point qu'on se fit un jeu de me tourmenter. C'était l'amusement de 50 personnes liguées. Il m'est impossible d'entrer dans tout le petit détail de ces méchancetés. On m'empêchait de dormir, de veiller, de prier. Un jour, on me volait quelques parties de mon vêtement. Une autre fois, c'était mes clés ou mon bréviaire. Ma serrure se trouvait embarrassée. Où l'on m'empêchait de bien faire, où l'on dérangeait les choses que j'avais bien faites. On me supposait des discours et des actions. On me rendait responsable de tout. Et ma vie était une suite de délits, réels ou simulés, et de châtiments. Ma santé ne tint point à des épreuves si longues et si dures. Je tombai dans l'abattement, le chagrin et la mélancolie. J'allais dans les commencements chercher de la force et de la résignation au pied des autels, et j'y en trouvais quelquefois. Je flottais entre la résignation et le désespoir, tantôt me soumettant à toute la rigueur de mon sort, tantôt pensant à m'en affranchir par des moyens violents. Il y avait au fond du jardin un puits profond. Combien de fois j'y suis allée? Combien j'y ai regardé de fois? Il y avait à côté un banc de pierre. Combien de fois je m'y suis assise, la tête appuyée sur le bord de ce puits. Combien de fois, dans le tumulte de mes idées, me suis-je levée brusquement et résolue à finir mes peines. Qu'est-ce qui m'a retenue? Pourquoi préférais-je alors de pleurer, de crier à haute voix, de fouler mon voile aux pieds, de m'arracher les cheveux et de me déchirer le visage avec les ongles? Si c'était Dieu qui m'empêchait de me perdre, pourquoi ne pas arrêter aussi tous ces autres mouvements? Je vais vous dire une chose qui vous paraîtra fort étrange peut-être, et qui n'en est pas moins vraie. C'est que je ne doute point que mes visites fréquentes vers ce puits n'aient été remarquées, et que mes cruels ennemis ne se soient flattés qu'un jour j'accomplirais un dessein qui bouillait au fond de mon cœur. Quand j'allais de ce côté, on affectait de s'en éloigner et de regarder ailleurs. Plusieurs fois, j'ai trouvé la porte du jardin ouverte à des heures où elle devait être fermée. Singulièrement les jours où l'on avait multiplié sur moi les chagrins. L'on avait poussé à bout la violence de mon caractère et l'on me croyait l'esprit aliéné. Mais aussitôt que je crus avoir deviné que ce moyen de sortir de la vie était pour ainsi dire offert à mon désespoir, qu'on me conduisait à ce puits par la main et que je le trouverais toujours prêt à me recevoir, je ne m'en souciais plus. Mon esprit se tourna vers d'autres côtés. Je me tenais dans les corridors et mesurais la hauteur des fenêtres. Le soir, en me déshabillant, j'essayais, sans y penser, la force de mes jarretières. Un autre jour, je refusais le manger. Je descendais au réfectoire et je restais le dos appuyé contre la muraille, les mains pendantes à mes côtés, les yeux fermés, et je ne touchais pas au mets qu'on avait servi devant moi. Je m'oubliais si parfaitement dans cet état que toutes les religieuses étaient sorties et que je restais. On affectait alors de se retirer sans bruit et l'on me laissait là. Puis on me punissait d'avoir manqué aux exercices. Que vous dirais-je? On me dégoûta de presque tous les moyens de m'ôter la vie, parce qu'il me sembla que loin de s'y opposer, on me les présentait. Nous ne voulons pas, apparemment, qu'on nous pousse hors de ce monde, et peut-être n'y serais-je plus si elles avaient fait semblant de m'y retenir. Quand on saute la vie, peut-être cherche-t-on à désespérer les autres, et la garde-t-on quand on croit les satisfaire. Ce sont des mouvements qui se passent bien subtilement en nous. En vérité, s'il est possible que je me rappelle mon état, quand j'étais à côté du puits, il me semble que je criais au-dedans de moi à ces malheureuses qui s'éloignaient pour favoriser un forfait. « Faites un pas de mon côté. Montrez-moi le moindre désir de me sauver. Accourez pour me retenir et soyez sûr que vous arriverez trop tard. » En vérité, je ne vivais que parce qu'elle souhaitait ma mort. L'acharnement à tourmenter et à perdre se lasse dans le monde. Il ne se lasse point dans les cloîtres. J'en étais là, lorsque, revenant sur ma vie passée, je songeais à faire résilier mes vœux. J'y rêvais d'abord légèrement. Seul, abandonné, sans appui, comment réussir dans un projet si difficile, même avec les secours qui me manquaient? Cependant, cette idée me tranquillisa. Mon esprit se rassit. Je fus plus à moi. J'évitais des peines et je supportais plus patiemment celles qui me venaient. On remarqua ce changement et l'on en fut étonné. La méchanceté s'arrêta tout court, comme un ennemi lâche qui vous poursuit et à qui l'on fait face au moment où il n'y s'y attend pas. Une question, monsieur, que j'aurais à vous faire. C'est pourquoi, à travers toutes les idées funestes qui passent par la tête d'une religieuse désespérée, celle de mettre le feu à la maison ne lui vient point. Je ne l'ai point eue, ni d'autres non plus, quoique ce soit la chose la plus facile à exécuter. Il ne s'agit, un jour de grand vent, que de porter un flambeau dans un grenier, dans un bûcher, dans un corridor. Il n'y a point de couvent de brûler. Et cependant, dans ces événements, les portes s'ouvrent et sauvent qui peut. Ne serait-ce pas qu'on craint le péril pour soi et pour celle qu'on aime et qu'on dédaigne un secours qui nous est commun avec celle qu'on hait? Cette dernière idée est bien subtile pour être vraie. À force de s'occuper d'une chose, on en sent la justice et même l'on en croit la possibilité. On est bien fort quand on en est là. Ce fut pour moi l'affaire d'une quinzaine. Mon esprit va vite. De quoi s'agissait-il? De dresser un mémoire et de le donner à consulter. L'un et l'autre n'étaient pas sans danger. Depuis qu'il s'était fait une révolution dans ma tête, on m'observait avec plus d'attention que jamais. On me suivait de l'œil. Je ne faisais pas un pas qui ne fût éclairé. Je ne disais pas un mot qu'on ne le pesât. On se rapprocha de moi. On chercha à me sonder. On m'interrogeait. On affectait de la commisération et de l'amitié. On revenait sur ma vie passée. On m'accusait faiblement. On m'excusait. On espérait une meilleure conduite. On me flattait d'un avenir plus doux. Cependant, on entrait à tout moment dans ma cellule, le jour, la nuit, sous des prétextes. Brusquement, sourdement, on entr'ouvrait mes rideaux et l'on se retirait. J'avais pris l'habitude de coucher habillé. J'en avais pris une autre, c'était celle d'écrire ma confession. Ces jours-là, qui sont marqués, j'allais demander de l'encre et du papier à la supérieure, qui ne m'en refusait pas. J'attendis donc le jour de la confession, et en l'attendant, je rédigeais dans ma tête ce que j'avais à proposer. C'était en abrégé tout ce que je viens de vous écrire. Seulement, je m'expliquais sous des noms empruntés. Mais je fis trois étourderies. La première, de dire à la supérieure que j'aurais beaucoup de choses à écrire et de lui demander sous ce prétexte plus de papier qu'on en accorde. La seconde, de m'occuper de mon mémoire et de laisser là ma confession. Et la troisième, n'ayant point fait de confession et n'étant point préparée à cet acte de religion, de ne demeurer au confessionnal qu'un instant. Tout cela fut remarqué. et l'on en conclut que le papier que j'avais demandé avait été employé autrement que je ne l'avais dit. Mais s'il n'avait pas servi à ma confession, comme il était évident, quel usage en avais-je fait ? Sans savoir qu'on prendrait ses inquiétudes, je sentis qu'il ne fallait pas qu'on trouvât chez moi un écrit de cette importance. D'abord, je pensai à le coudre dans mon traversin ou dans mes matelas, puis à le cacher dans mes vêtements, à l'enfouir dans le jardin, à le jeter au feu. Vous ne sauriez croire combien je fus pressé de l'écrire et combien j'en fus embarrassé quand il fut écrit. D'abord, je le cachetai. Ensuite, je le serrai dans mon sein et j'allai à l'office qui sonnait. J'étais dans une inquiétude qui se décelait à mes mouvements. J'étais assise à côté d'une jeune religieuse qui m'aimait. Quelquefois, je l'avais vue me regarder en pitié et verser des larmes. Elle ne me parlait point, mais certainement elle souffrait. Au risque de tout ce qui pourrait arriver, je résolus de lui confier mon papier. Dans un moment d'oraison où toutes les religieuses se mettent à genoux, s'inclinent et sont comme plongées dans leur stalle, je tirai doucement le papier de mon sein et je le lui tendis derrière moi. Elle le prit et le serra dans le sien. Ce service fut le plus important de ceux qu'elle m'avait rendu, mais j'en avais reçu beaucoup d'autres. Elle s'était occupée pendant des mois entiers à lever, sans se compromettre, tous les petits obstacles qu'on apportait à mes devoirs pour avoir droit de me châtier. Elle venait frapper à ma porte quand il était heure de sortir. Elle arrangeait ce qu'on dérangeait. Elle allait sonner ou répondre quand il le fallait. Elle se trouvait partout où je devais être. J'ignorais tout cela. Je fis bien de prendre ce parti. Lorsque nous sortîmes du chœur, la supérieure me dit « Sœur Suzanne, suivez-moi ». Je la suivis, puis s'arrêtant dans le corridor à une autre porte. « Voilà, me dit-elle, votre cellule. C'est la sœur Saint-Jérôme qui occupera la vôtre. » J'entrai, et elle avec moi. Nous étions toutes deux assises sans parler, lorsqu'une religieuse parut avec des habits qu'elle posa sur une chaise, et la sœur supérieure me dit « Sœur Suzanne, déshabillez-vous et prenez ce vêtement. » J'obéis en sa présence. Cependant, elle était attentive à tous mes mouvements. La sœur qui avait apporté mes habits était à la porte. Elle rentra, emporta ceux que j'avais quittés, sortit, et la supérieure la suivit. On ne me dit point la raison de ces procédés, et je ne la demandai point. Cependant, on avait cherché partout dans ma cellule. On avait décousu l'oreiller et les matelas. On avait déplacé tout ce qui pouvait l'être ou l'avoir été. On marcha sur mes traces, on alla au confessionnal, à l'église, dans le jardin, au puits, vers le banc de pierre. Je vis une partie de ses recherches, je soupçonnai le reste. On ne trouva rien, mais on n'en resta pas moins convaincu qu'il y avait quelque chose. On continua de mes pieds pendant plusieurs jours. On allait où j'étais allé, on regardait partout, mais inutilement. Enfin, la supérieure crut qu'il n'était possible de savoir la vérité que par moi. Elle entra un jour dans ma cellule et me dit « Sœur Suzanne, vous avez des défauts, mais vous n'avez pas celui de mentir. Dites-moi donc la vérité. Qu'avez-vous fait de tout le papier que je vous ai donné ?»« Madame, je vous l'ai dit. » »« Cela ne se peut pas, car vous m'en avez demandé beaucoup et vous n'avez été qu'un moment au confessionnal. » »« Il est vrai. » Qu'en avez-vous donc fait ? Ce que je vous ai dit. Eh bien, jurez-moi, par la sainte obéissance que vous avez vouée à Dieu, que cela est, et malgré les apparences, je vous croirai. Madame, il ne vous est pas permis d'exiger un serment pour une chose si légère, et il ne m'est pas permis de le faire. Je ne saurais jurer. Vous me trompez, sœur Suzanne, et vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. « Qu'avez-vous fait du papier que je vous ai donné ?»« Je vous l'ai dit. »« Où est-il ?»« Je ne l'ai plus. »« Qu'en avez-vous fait ?»« Ce que l'on fait de ces sortes d'écrits qui sont inutiles après qu'on s'en est servi. »« Jurez-moi, par la sainte obéissance, qu'il a été tout employé à écrire votre confession et que vous ne l'avez plus. Madame, je vous le répète, cette seconde chose n'étant pas plus importante que la première, je ne saurais jurer. Jurer, me dit-elle, ou je ne jurerai point. Vous ne jurerez point ? Non, madame. Vous êtes donc coupable. Et de quoi puis-je être coupable ? De tout. Il n'y a rien dont vous ne soyez capable. Vous avez affecté de louer celle qui m'avait précédée pour me rabaisser, de mépriser les usages qu'elle avait proscrits, les lois qu'elle avait abolies et que j'ai cru devoir rétablir, de soulever toute la communauté, d'enfreindre les règles, de diviser les esprits, de manquer à tous vos devoirs, de me forcer à vous punir et à punir celle que vous avez séduite, la chose qui me coûte le plus. J'aurais pu sévir contre vous par les voies les plus dures. Je vous ai ménagé, j'ai cru que vous reconnaîtriez vos torts, que vous reprendriez l'esprit de votre état et que vous reviendriez à moi. Vous ne l'avez pas fait. Il se passe quelque chose dans votre esprit qui n'est pas bien. Vous avez des projets. L'intérêt de la maison exige que je les connaisse, et je les connaîtrai. C'est moi qui vous en réponds. Sœur Suzanne, dites-moi la vérité. Je vous l'ai dite. Je vais sortir. Craignez mon retour. Je m'assieds. Je vous donne encore un moment pour vous déterminer. Vos papiers, s'ils existent. Je ne les ai plus. Ou le serment qu'il ne contenait que votre confession. Je ne saurais le faire. Elle demeura un moment en silence, puis elle sortit et rentra avec quatre de ses favorites. Elles avaient l'air égarées et furieux. Je me jetai à leurs pieds, j'implorai leur miséricorde. Elles criaient toutes ensemble. « Point de miséricorde, madame, ne vous laissez pas toucher, qu'elle donne ses papiers ou qu'elle aille en paix. » J'embrassai les genoux tantôt de l'une, tantôt de l'autre. Je leur disais, en les nommant par leur nom, « Sœur Sainte Agnès, Sœur Sainte Julie, que vous ai-je fait ? Pourquoi irritez-vous ma supérieure contre moi ? Est-ce ainsi que j'en ai usé ? Combien de fois n'ai-je pas supplié pour vous ? Vous ne vous en souvenez plus. Vous étiez en faute et je ne le suis pas. » La supérieure, immobile, me regardait et me disait « Donne tes papiers, malheureuse, ou révèle ce qu'ils contenaient. » « Madame, lui disait-elle, ne les lui demandez plus, vous êtes trop bonne, vous ne la connaissez pas. C'est une âme indocile dont on ne peut venir à bout que par des moyens extrêmes. C'est elle qui vous y porte, tant pis pour elle. » « Ma chère mère, lui disais-je, je n'ai rien fait qui puisse offenser ni Dieu ni les hommes, je vous le jure. » « Ce n'est pas là le serment que je veux. » « Elle aura écrit contre vous, contre nous, quelques mémoires au grand vicaire, à l'archevêque. Dieu sait comme elle aura peint l'intérieur de la maison. On croit aisément le mal. Madame, il faut disposer de cette créature si vous ne voulez pas qu'elle dispose de nous. » La supérieure ajouta « Sœur Suzanne, voyez !» Je me levai brusquement et je lui dis « Madame, j'ai tout vu. Je sens que je me perds, mais un moment plus tôt ou plus tard ne vaut pas la peine d'y penser. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Écoutez leur fureur. Consommez votre injustice. » Et à l'instant, je leur tendis les bras. Ses compagnes s'en saisirent. On m'arracha mon voile. On me dépouilla sans pudeur. On trouva sur mon sein un petit portrait de mon ancienne supérieure. On s'en saisit. Je suppliai qu'on me permît de le baiser encore une fois. On me refusa. On me jeta une chemise, on m'ôta mes bas, on me couvrit d'un sac et l'on me conduisit, la tête et les pieds nus, à travers les corridors. Je criais, j'appelais à mon secours, mais on avait sonné la cloche pour avertir que personne ne parut. J'invoquais le ciel, j'étais à terre et l'on me traînait. Quand j'arrivais au bas des escaliers, j'avais les pieds ensanglantés et les jambes meurtries. J'étais dans un état à toucher des âmes de bronze. Cependant, l'on ouvrit avec de grosses clés la porte d'un petit lieu souterrain, obscur, où l'on me jeta sur une natte que l'humidité avait à demi pourrie. Là, je trouvai un morceau de pain noir et une cruche d'eau avec quelques vaisseaux nécessaires et grossiers. La natte roulée par un bout formait un oreiller. Il y avait, sur un bloc de pierre, une tête de mort avec un crucifix de bois. Mon premier mouvement fut de me détruire. Je portai mes mains à ma gorge. Je déchirai mon vêtement avec mes dents. Je poussai des cris affreux. Je hurlai comme une bête féroce. Je me frappai la tête contre les murs. Je me mis tout en sang. Je cherchai à me détruire jusqu'à ce que les forces me manquassent, ce qui ne tarda pas. C'est là que j'ai passé 3 jours. Je m'y croyais pour toute ma vie. Tous les matins, une de mes exécutrices venait et me disait « Obéissez à notre supérieur et vous sortirez d'ici. » Je n'ai rien fait, je ne sais ce qu'on me demande. Ah, sœur Saint-Clément, il est un dieu. » Le 3e jour, sur les 9 heures du soir, on ouvrit la porte. C'étaient les mêmes religieuses qui m'avaient conduite. Après l'éloge des bontés de notre supérieur, elles m'annoncèrent qu'elles me faisaient grâce et qu'on allait me mettre en liberté. « Il est trop tard, leur dis-je. Laissez-moi ici, je veux y mourir. » Cependant, elles m'avaient relevé et elles m'entraînaient. On me conduisit dans ma cellule où je trouvais la supérieure. « J'ai consulté Dieu sur votre sort. Il a touché mon cœur. Il veut que j'aie pitié de vous et je lui obéis. « Mettez-vous à genoux et demandez-lui pardon. » Je me mis à genoux et je dis « Mon Dieu, je vous demande pardon des fautes que j'ai faites, comme vous le demandâtes sur la croix pour moi. » « Quel orgueil ! » s'écrièrent-elles. « Elle se compare à Jésus-Christ et elle nous compare aux Juifs qui l'ont crucifié. » « Ne me considérez pas, leur dis-je, mais considérez-vous et jugez. » « Ce n'est pas tout, me dit la supérieure. Jurez-moi, par la sainte obéissance, que vous ne parlerez jamais de ce qui s'est passé. Ce que vous avez fait est donc bien mal, puisque vous exigez de moi par serment que j'en garderai le silence. Personne n'en saura jamais rien que votre conscience, je vous le jure. » « Vous le jurez ? » ?»« Oui, je vous le jure. » Cela fait, elles me dépouillèrent des vêtements qu'elles m'avaient donnés et elles me laissèrent me rhabiller des miens. J'avais pris de l'humidité. J'étais dans une circonstance critique. J'avais tout le corps meurtri. Depuis plusieurs jours, je n'avais pris que quelques gouttes d'eau avec un peu de pain. Je crus que cette persécution serait la dernière que j'aurais à souffrir. C'est par l'effet momentané de ces secousses violentes qui montre combien la nature a de force dans les jeunes personnes, que je revins en très peu de temps. Et je trouvais, quand je reparus, toute la communauté persuadée que j'avais été malade. Je repris les exercices de la maison et ma place à l'église. Je n'avais pas oublié mon papier, ni la jeune sœur à qui je l'avais confié. J'étais sûre qu'elle n'avait point abusé de ce dépôt, mais qu'elle ne l'avait pas gardé sans inquiétude. Quelques jours après ma sortie de prison, au cœur, au moment même où je le lui avais donné, c'est-à-dire lorsque nous nous mettions à genoux et qu'inclinées les unes vers les autres, nous disparaissons dans nos stalles, je me sentis tirée doucement par ma robe. Je tendis la main et l'on me donna un billet qui ne contenait que ces mots. « Combien vous m'avez inquiétée, et ce cruel papier, que faut-il que j'en fasse ?» Après avoir lu celui-ci, je le roulai dans mes mains et je l'avalai. Tout cela se passait au commencement du carême. Le temps approchait où la curiosité d'entendre appelle à long chant la bonne et la mauvaise compagnie de Paris. J'avais la voix très belle. J'en avais peu perdu. C'est dans les maisons religieuses qu'on est attentif aux plus petits intérêts. On eut quelques ménagements pour moi. Je jouis d'un peu plus de liberté. Les sœurs que j'instruisais au chant purent approcher de moi sans conséquence. Celle à qui j'avais confié mon mémoire en était une. Dans les heures de récréation que nous passions au jardin, je la prenais à l'écart, je la faisais chanter. Et pendant qu'elle chantait, voici ce que je lui dis. « Vous connaissez beaucoup de monde, moi je ne connais personne. Je ne voudrais pas que vous vous compromissiez. J'aimerais mieux mourir ici que de vous exposer aux soupçons de m'avoir servi. Mon ami, vous seriez perdu, je le sais, cela ne me sauverait pas. Et quand votre perte me sauverait, je ne voudrais point de mon salut à ce prix. « Laissons cela, me dit-elle. De quoi s'agit-il ? » Il s'agit de faire passer sûrement cette consultation à quelque habile avocat, sans qu'il sache de quelle maison elle vient, et d'en obtenir une réponse que vous me rendrez à l'église ou ailleurs. « À propos, me dit-elle, qu'avez-vous fait de mon billet ?»« Soyez tranquille, je l'ai avalé. »« Soyez tranquille vous-même, je penserai à votre affaire. » »« Vous remarquerez, monsieur, que je chantais tandis qu'elle me parlait, qu'elle chantait tandis que je lui répondais, et que notre conversation était entrecoupée de traits de chant. Cette jeune personne, monsieur, est encore dans la maison, son bonheur est entre vos mains. Si l'on venait à découvrir ce qu'elle a fait pour moi, il n'y a sorte de tourment auquel elle ne fût exposée. Je ne voudrais pas lui avoir ouvert la porte d'un cachot. J'aimerais mieux y rentrer. Brûlez donc ces lettres, monsieur. Si vous en séparez l'intérêt que vous voulez bien prendre à mon sort, elles ne contiennent rien qui vaille la peine d'être conservé. Voilà ce que je vous disais alors. Mais, hélas, elle n'est plus, et je reste seule. Elle ne tarda pas à me tenir parole et à m'en informer à notre manière accoutumée. La semaine sainte arriva, le concours à nos ténèbres fut nombreux. Je chantais assez bien pour exciter avec tumulte ces scandaleux applaudissements que l'on donne à vos comédiens dans leur salle de spectacle et qui ne devraient jamais être entendus dans les temples du Seigneur, surtout pendant les jours solennels et lugubres où l'on célèbre la mémoire de son fils attaché sur la croix pour l'expiation des crimes du genre humain. Mes jeunes élèves étaient bien préparées, quelques-unes avaient de la voix, presque toutes de l'expression et du goût. Et il me parut que le public les avait entendues avec plaisir et que la communauté était satisfaite du succès de mes soins. Vous savez, monsieur, que le jeudi l'on transporte le Saint-Sacrement de son tabernacle dans un reposoir particulier où il reste jusqu'au vendredi matin. Cet intervalle est rempli par les adorations successives des religieuses qui se rendent au reposoir les unes après les autres ou deux à deux. Il y a un tableau qui indique à chacune son heure d'adoration. Que je fus contente d'y lire la sœur Sainte Suzanne et la sœur Sainte Ursule depuis 2 heures du matin jusqu'à 3. Je me rendis au reposoir à l'heure marquée. Ma compagne y était. Nous nous plaçâmes l'une à côté de l'autre sur les marches de l'autel. Nous nous prosternâmes ensemble. Nous adorâmes Dieu pendant une demi-heure. Au bout de ce temps, ma jeune amie me tendit la main et me la serra en disant « Nous n'aurons peut-être jamais l'occasion de nous entretenir aussi longtemps et aussi librement. Dieu connaît la contrainte où nous vivons et il nous pardonnera si nous partageons un temps que nous lui devons tout entier. Je n'ai pas lu votre mémoire, mais il n'est pas difficile de deviner ce qu'il contient. J'en aurai incessamment la réponse. » Mais si cette réponse vous autorise à poursuivre la résiliation de vos vœux, ne voyez-vous pas qu'il faudra nécessairement que vous conférriez avec des gens de loi ? Il est vrai. Que vous aurez besoin de liberté ? Il est vrai. Et que si vous faites bien, vous profiterez des dispositions présentes pour vous en procurer ? J'y ai pensé. Vous le ferez donc ? Je verrai. Autre chose, si votre affaire s'entame, vous demeurerez ici abandonné à toute la fureur de la communauté. Avez-vous prévu les persécutions qui vous attendent ? Elles ne seront pas plus grandes que celles que j'ai souffertes. Je n'en sais rien. Pardonnez-moi, d'abord on osera disposer de ma liberté. Et pourquoi cela ? Parce qu'alors je serai sous la protection des lois. Il faudra me représenter. Je serai, pour ainsi dire, entre le monde et le cloître. J'aurai la bouche ouverte, la liberté de me plaindre. Je vous attesterai toutes. On osera avoir des torts dont je pourrai me plaindre. On aura garde de rendre une affaire mauvaise. Je ne demanderai pas mieux qu'on en use à mal avec moi, mais on ne le fera pas. Soyez sûr qu'on prendra une conduite tout opposée. On me sollicitera, on me représentera le tort que je vais me faire à moi-même et à la maison. Et comptez qu'on en viendra aux menaces, que quand on aura vu que la douceur et la séduction ne pourront rien, et qu'on s'interdira les voies de force. Mais il est incroyable que vous ayez tant d'aversion pour un état dont vous remplissez si facilement et si scrupuleusement les devoirs. Je la sens, cette aversion, je la portais en naissant, et elle ne me quittera pas. Je finirai par être une mauvaise religieuse. Il faut prévenir ce moment. Mais si par malheur vous succombez? Si je succombe, je demanderai à changer de maison, ou je mourrai dans celle-ci. On souffre longtemps avant que de mourir. Ah, mon ami, votre démarche me fait frémir. Je tremble que vos vœux ne soient résiliés et qu'ils ne le soient pas. S'ils le sont, que deviendrez-vous? Que ferez-vous dans le monde? Vous avez de la figure, de l'esprit et des talents, mais on dit que cela ne mène à rien avec la vertu, et je sais que vous ne vous départirez pas de cette dernière qualité. Vous me rendez justice, mais vous ne la rendez pas à la vertu. C'est sur elle seule que je compte. Plus elle est rare parmi les hommes, plus elle doit être considérée. On la loue, mais on ne fait rien pour elle. C'est elle qui m'encourage et qui me soutient dans mon projet. Quoi qu'on m'objecte, on respectera mes mœurs. On ne dira pas du moins, comme de la plupart des autres, que je sois entraînée hors de mon état par une passion déréglée. Je ne vois personne, je ne connais personne. Je demande à être libre parce que le sacrifice de ma liberté n'a pas été volontaire. Avez-vous lu mon mémoire? Non. J'ai ouvert le paquet que vous m'avez donné parce qu'il était sans adresse et que j'ai dû penser qu'il était pour moi. Mais les premières lignes m'ont détrompée et je n'ai pas été plus loin. Que vous fûtes bien inspiré de me l'avoir remis. Un moment plus tard, on l'aurait trouvé sur vous. Mais l'heure qui finit notre station approche. Prosternons-nous. Que celles qui vont nous succéder nous trouvent dans la situation où nous devons être. Demandez à Dieu qu'il vous éclaire et qu'il vous conduise. Je vais unir ma prière et mes soupirs aux vôtres. J'avais l'âme un peu soulagée. Ma compagne priait droite, moi je me prosternais. Mon front était appuyé contre la dernière marche de l'autel et mes bras étaient étendus sur les marches supérieures. Je ne crois pas m'être jamais adressée à Dieu avec plus de consolation et de ferveur. Le cœur me palpitait avec violence. J'oubliais en un instant tout ce qui m'environnait. Je ne sais combien je restais dans cette position, ni combien j'y serais encore restée. Mais je fus un spectacle bien touchant, il faut le croire, pour ma compagne et pour les deux religieuses qui survinrent. Quand je me relevai, je crus être seule. Je me trompais, elles étaient toutes les trois placées derrière moi, debout et fondant en larmes. Elles n'avaient osé m'interrompre. Elles attendaient que je sortisse de moi-même de l'état de transport et d'effusion où elles me voyaient. Quand je me retournai de leur côté, mon visage avait sans doute un caractère bien imposant, si j'en juge par l'effet qu'il produisit sur elles, et parce qu'elles ajoutèrent que je ressemblais alors à notre ancienne supérieure lorsqu'elle nous consolait, et que ma vue leur avait causé le même tressaillement. Si j'avais eu quelque penchant à l'hypocrisie ou au fanatisme et que j'eusse voulu jouer un rôle dans la maison, je ne doute point qu'il ne m'eût réussi. Mon âme s'allume facilement, s'exalte, se touche. Et cette bonne supérieure m'a dit 100 fois en m'embrassant que personne n'aurait aimé Dieu comme moi, que j'avais un cœur de chair et les autres un cœur de pierre. Il est sûr que j'éprouvais une facilité extrême à partager son extase, et que, dans les prières qu'elle faisait à haute voix, quelquefois il m'arrivait de prendre la parole, de suivre le fil de ses idées, et de rencontrer, comme d'inspiration, une partie de ce qu'elle aurait dit elle-même. Les autres l'écoutaient en silence ou la suivaient. Moi, je l'interrompais, ou je la devançais, ou je parlais avec elle. Je conservais très longtemps l'impression que j'avais prise. Et il fallait apparemment que je lui en restituasse quelque chose, car si l'on discernait dans les autres qu'elles avaient conversé avec elle, on discernait en elle qu'elle avait conversé avec moi. Mais qu'est-ce que cela signifie quand la vocation n'y est pas? Notre station finie, nous cédâmes la place à celle qui nous succédait. Nous nous embrassâmes bien tendrement, ma jeune compagne et moi, avant que de nous séparer. La scène du reposoir fit bruit dans la maison. Ajoutez à cela le succès de nos ténèbres du Vendredi Saint, je chantais, je touchais de l'orgue, je fus applaudi. Oh, tête folle de religieuse! Je n'eus presque rien à faire pour me réconcilier avec toute la communauté. On vint au-devant de moi, la supérieure la première. Quelques personnes du monde cherchèrent à me connaître. Cela cadrait trop bien avec mon projet pour m'y refuser. Je vis monsieur le premier président, madame de Soubise, et une foule d'honnêtes gens, des moines, des prêtres, des militaires, des magistrats, des femmes pieuses, des femmes du monde. Et parmi tout cela, cette sorte d'étourdie que vous appelez des talons rouges et que j'eus bientôt congédiée. Je ne cultivais de connaissances que celles qu'on ne pouvait m'objecter. J'abandonnais le reste à celles de nos religieuses qui n'étaient pas si difficiles. J'oubliais de vous dire que la première marque de bonté qu'on me donna, ce fut de me rétablir dans ma cellule. J'eus le courage de redemander le petit portrait de notre ancienne supérieure, et l'on n'eut pas celui de me le refuser. Il a repris sa place sur mon cœur. Il y demeurera tant que je vivrai. Tous les matins, mon premier mouvement est d'élever mon âme à Dieu. Le second est de le baiser. Lorsque je veux prier et que je me sens l'âme froide, je le détache de mon cou, je le place devant moi, je le regarde, et il m'inspire. C'est bien dommage que nous n'ayons pas connu les saints personnages, dont les simulacres sont exposés à notre vénération. Ils feraient bien une autre impression sur nous. Ils ne nous laisseraient pas à leurs pieds ou devant eux, aussi froids que nous y demeurons. J'eus la réponse à mon mémoire. Elle était d'un monsieur Manoury, ni favorable, ni défavorable. Avant que de prononcer sur cette affaire, on demandait un grand nombre d'éclaircissements auxquels il était difficile de satisfaire sans se voir. Je me nommai donc, et j'invitai M. Manoury à se rendre à Longchamp. Ces messieurs se déplacent difficilement, cependant il vint. Nous nous entretînmes très longtemps. Nous convînmes d'une correspondance par laquelle il me ferait parvenir sûrement ses demandes et je lui enverrai mes réponses. J'employai de mon côté tout le temps qu'il donnait à mon affaire, à disposer les esprits, à intéresser à mon sort et à me faire des protections. Je me nommai, je révélai ma conduite dans la première maison que j'avais habitée, ce que j'avais souffert dans la maison domestique, les peines qu'on m'avait faites au couvent, ma réclamation à Sainte-Marie, mon séjour à Longchamp, ma prise d'habit, ma profession. La cruauté avec laquelle j'avais été traitée depuis que j'avais consommé mes vœux. On me plaignit, on m'offrit du secours. Je retins la bonne volonté qu'on me témoignait pour le temps où je pourrais en avoir besoin, sans m'expliquer davantage. Rien ne transpirait dans la maison. J'avais obtenu de Rome la permission de réclamer contre mes vœux. Incessamment, l'action allait être intentée. Qu'on était là-dessus dans une sécurité profonde. Je vous laisse donc à penser quelle fut la surprise de ma supérieure lorsqu'on lui signifia, au nom de sœur Marie-Suzanne Simonin, une protestation contre ses vœux, avec la demande de quitter l'habit de religion et de sortir du cloître pour disposer d'elle comme elle le jugerait à propos. J'avais bien prévu que je trouverais plusieurs sortes d'opposition. Celle des lois, celle de la maison religieuse et celle de mes beaux-frères et sœurs alarmés. Ils avaient eu tout le bien de la famille. Et libre, j'aurais eu des reprises considérables à faire sur eux. J'écrivis à mes sœurs. Je les suppliais de n'apporter aucune opposition à ma sortie. J'en appelais à leur conscience sur le peu de liberté de mes vœux. Je leur offris un désistement par acte authentique de toutes mes prétentions à la succession de mon père et de ma mère. Je n'épargnais rien pour leur persuader que ce n'était ici une démarche ni d'intérêt ni de passion. Je ne m'en imposais point sur leurs sentiments. Cet acte que je leur proposais, fait tandis que j'étais encore engagée en religion, devenait invalide, et il était trop incertain pour elles que je le ratifiasse quand je serais libre. Et puis, leur convenait-il d'accepter mes propositions? Laisseront-elles une sœur sans asile et sans fortune? Jouiront-elles de son bien? Que dira-t-on dans le monde? Si elle vient nous demander du pain, la refuserons-nous? S'il lui prend fantaisie de se marier, qui sait la sorte d'homme qu'elle épousera? Et si elle a des enfants? Il faut contrarier de toute notre force cette dangereuse tentative. Voilà ce qu'elles se dirent et ce qu'elles firent.